Ce soir, nous recevons Bertrand Badi. Bertrand Badi, comme je l'ai dit, est politiste. Il est né en 1950 à Paris. Il est docteur d'État en sciences politiques de l'IEP et diplômé de l'Institut des langues orientales. Il est également agrégé de sciences politiques. Il est professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est directeur des collections des presses de Sciences Po et directeur du cycle supérieur de relations internationales de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est spécialiste des relations internationales, membre de l'Association française de sciences politiques et, outre de nombreux articles qu'il a écrits dans des revues, il a écrit les ouvrages suivants. Le développement politique, paru chez Economica, il y a eu 5 éditions, donc la première édition date de 1978 et la dernière de 1994. Culture et politique, qui a eu 3 éditions et qui est publiée par Paris Economica, la première édition date de 1983, la dernière de 1993. Sociologie de l'État en collaboration avec Pierre Birnbaum, qui est paru chez Grasset en 1979. Les deux États paru chez Fayard en 1987 et qui a été réédité collection Point Seuil en 1997. Politique comparée, qui lui a été fait, je crois, en collaboration avec Guy Hermé, qui est publié aux Presses universitaires de France, collection Témis, en 1990, Le retournement du monde, sociologie de la scène internationale, qui est paru aux presses de Sciences Po en 1992, en collaboration avec Marie-Claude Smuts, L'État importé, essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique, paru chez Fayard en 1992, La fin des territoires, paru chez Fayard en 1995, deux collectifs. Tout d'abord, le défi migratoire paru aux presses de Sciences Po en 1994. Et le deuxième collectif, c'est l'autre paru aux presses de Sciences Po en 1996. Et le dernier ouvrage de Bertrand Badi est Un monde sans souveraineté, paru chez Fayard en 1999. Bertrand Badi, je vous cède donc la parole pour une 50aine de minutes, après quoi suivra un débat d'une 20aine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai l'honneur d'ouvrir ce cycle consacré à l'Europe, d'où peut-être le caractère un peu général des propos que je vais vous énoncer ce soir. Général, mais en même temps, nous renvoyons tout de suite à un problème de fond, qui sera un peu la ligne directrice de toute cette conférence. Le problème de fond, c'est que cette expérience européenne qui nous est si proche, dans laquelle nous vivons quotidiennement, est une expérience inédite, hors catégorie, difficile à nommer. Et c'est un grand problème. C'est-à-dire, je crois que nous touchons là du doigt probablement ce qui fait la richesse de ce que nous vivons aujourd'hui, mais en même temps ce qui en fait l'incertitude. Richesse de l'inédit, incertitude d'un phénomène que nous avons coutume de nommer par usage de mots, de concepts, de notions, de catégories, que l'expérience européenne précisément vient périmer. Notamment le débat le plus célèbre, Europe et État. L'Europe est-elle une addition d'États ou est-elle un super-État en construction ? Est déjà un faux débat parce que lire l'Europe à travers cette notion multiséculaire d'État est une grave erreur. L'Europe, l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est ni une addition d'États, ni un super-État. C'est quelque chose d'autre, une sorte d'objet politique non identifié, difficile à nommer, difficile à concevoir, parce que lorsque nous essayons, par une démarche très humaine qui consiste à aller du connu vers l'inconnu, quand nous essayons donc de situer cette invention européenne, nous appauvrissons sa lecture en la nommant à travers des catégories politiques, une rhétorique politique, un discours politique qui ne correspond pas à la richesse de l'invention et de l'imagination. Mais alors, deuxième caractéristique qu'on a envie d'examiner aussitôt, c'est que cette invention est une invention en direct, qui n'est pas prépensée, préthéorisée, qui est en quelque sorte le résultat d'une expérience, d'une imagination quotidienne. Il n'y a pas véritablement une théorie préconstruite de l'Union européenne. Et a fortiori, bien sûr, il n'y a pas une modélisation toute faite de l'Europe, de ce qu'elle est et a fortiori de ce qu'elle va devenir. Il y a eu des penseurs, des grands penseurs de l'Europe. Il y a eu des pionniers de l'Europe et des grands pionniers de l'Europe. Et il ne s'agit pas de les oublier. Mais il s'agit quand même, sans irrévérence excessive, de noter qu'ils se sont quelque peu trompés. Si vous lisez les grands fédéralistes qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale pour certains d'entre eux, mais qui ont surtout accompagné la construction européenne au lendemain du deuxième conflit mondial, vous vous apercevez du fossé qu'il y a entre l'Europe telle qu'elle a été imaginée par ses pionniers, par ses penseurs ou par ses théoriciens, et la réalité quotidienne telle que nous la découvrons jour après jour, traité après traité, pratique après pratique. Et donc, il faut être infiniment modeste lorsque l'on parle d'Europe, parce que notre travail consiste à suivre quelque chose d'inédit dans son développement au jour le jour, tout en étant très prudent sur les pronostics. Et je ne ferai injure à aucun grand, à aucun des grands hommes qui ont accompagné cette seconde moitié du XXe siècle, en vous lisant des propos qui se voulaient divinatoires et qui maintenant sont complètement éloignés de la réalité telle que nous la vivons. Et puis, troisième caractéristique de cette construction européenne, c'est qu'elle est pionnière dans le monde. Elle est pionnière. Incontestablement, la construction européenne, telle qu'elle se met à l'œuvre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été la première des grandes constructions régionales. Et sans aucun doute, elle est restée exemple unique d'intégration régionale, au moins pendant les 20-25 premières années qui ont suivi le second conflit mondial. Mais plus encore, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la construction régionale qui s'éveille un peu partout dans le monde, en Amérique latine avec le Mercosur, en Amérique du Nord avec le NAFTA, l'ENA, en Afrique australe avec la SADC, en Asie avec les AEG, l'ASEAN, rassurez-vous, je vais arrêter là cette énumération de sigles étranges, eh bien, toutes ces constructions qu'il faut quand même avoir en tête, car elles font l'actualité internationale d'aujourd'hui, ont pour l'Europe un regard de petit frère ou de petite sœur. L'Europe a incontestablement servi de modèle aux autres, à un moment où pourtant l'Europe semblait s'installer dans la réputation peu enviable de vieux continents et d'expression d'un passé révolu devant cette explosion de modernité qui marque l'avenir de l'Amérique du Nord ou celui de l'Asie orientale. Eh bien là, nous servons de modèle, d'un modèle critiqué. Et si j'en ai le temps tout à l'heure, je reviendrai sur cette diffusion du modèle européen pour signaler que ce qui se fait en Asie, en Afrique, en Amérique, malheureusement, davantage chez les pays riches que chez les pays pauvres qui auraient pourtant besoin d'intégration régionale, ce qui se fait n'est pas copie conforme de ce que nous faisons. Mais la référence à l'Union européenne est présente partout, particulièrement remarquable chez, parmi tous ceux que j'ai signalés, ceux qui nous sont les plus proches, ou qui sont les plus proches, en tous les cas, du modèle de la construction européenne, à savoir nos amis latino-américains, le Mercosur, libéré dans sa construction avec la fin des dictatures militaires en Amérique latine, s'imposant comme peut-être l'imitation la plus proche et la plus fidèle, avec quelques années de décalage, du modèle européen. Et donc, curieuse aventure que cette aventure que nous ne parvenons pas à nommer, que nous ne parvenons pas à conceptualiser, que nous ne parvenons pas à théoriser, et qui pourtant est source d'inspiration. On pourrait dire modèle sans modèle. Et peut-être ainsi pourrait-on saisir ce qui, moi, m'intéresse le plus en tant que politiste et en tant qu'internationaliste dans cette expérience européenne, c'est-à-dire cette réponse inédite au grand défi qui est celui de la mondialisation. Comment trouver une posture intermédiaire entre des États-nations qui s'essoufflent dans leur efficience, dans leur efficacité, et un mondialisme qui reste soit utopique, si on croit en faire la cité de demain, soit chaotique, si on pense à en faire le réceptacle des échanges internationaux d'aujourd'hui. Alors, si je vous dis ça en introduction, c'est pour vous conduire à l'indulgence. Le sujet de mon exposé, c'est « Originalité et avenir de l'expérience de la construction européenne ». Cette originalité, je viens de vous dire que je ne sais pas la nommer, et cet avenir, je viens de vous expliquer qu'il est difficile, voire impossible, à brosser. Mais je vais quand même parler 50 minutes, enfin 45. En tentant de cerner ce phénomène, finalement, à travers trois réflexions. Cette construction européenne, c'est une histoire, eh oui, presque un demi-siècle. Ce sont des enjeux au quotidien, mouvants, car les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui avaient marqué, comme je vous l'indiquerai dans un instant, les premiers pas de cette Europe en voie d'unification. Et enfin, c'est un pari. Histoire, enjeu, pari. Histoire d'abord. Alors ce serait trop simple s'il n'y avait qu'une construction européenne. Je crois que ce serait une erreur de considérer que, en gros, ce phénomène qui se développe au sortir de la Seconde Guerre mondiale va se dérouler de manière uniforme jusqu'au premier mouvement de ce troisième millénaire. Je pense que pour comprendre l'Europe, il faut distinguer, peut-être grossièrement, car il faudrait aller plus à un niveau plus fin d'analyse, distinguer grossièrement deux étapes. La première, c'est celle des reconstructeurs d'après-guerre. Et la deuxième étape, c'est celle qui s'amorce avec la grande crise des années 70, qui, comme vous le savez, marque la fin des Trente Glorieuses et l'entrée dans un nouveau monde, et un nouveau monde qui va se parfaire de fin de guerre froide et de bipolarité. Ce sont deux moments, en réalité, si on regarde en arrière, deux moments très différents. Et donc, il n'y a pas eu une construction européenne, il y en a au moins deux. Je crois qu'il est important de tenter de les distinguer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'obsession était claire. Les États, la concurrence entre les États, a bien été la source des malheurs du monde. Pour la première fois probablement depuis six siècles d'existence, l'État est mis en accusation. C'est la rivalité, la concurrence entre les États européens qui est à la source de ce que, après coup, on a nommé joliment la guerre civile européenne. La juxtaposition d'États souverains n'était peut-être pas la cause principale de la Seconde Guerre mondiale, nous savons que celle-ci est à rechercher dans le totalitarisme, mais cette concurrence entre États souverains qui s'ignorent et tout juste acceptent de se juxtaposer a été très probablement aux sources du premier et du second conflit mondial. Un grand auteur venu d'Europe centrale publie en 1943, « La guerre n'est pas terminée », un très beau livre. Cet auteur s'appelle David Mitrani, et ce livre est, par son titre, tout un programme, « A Working Peace System », c'est-à-dire le système de la paix en construction, en marche. Et dans cet ouvrage, Mitrani nous dit « Il faut inverser notre grammaire politique. Tout ne se ramène pas à l'État. L'État n'est pas la fin de toute action. L'État n'est pas une fin en soi. L'État a été construit comme instrument au service de l'homme. Redonnons à l'homme cette vertu de finalité et d'objectif à atteindre en dernière instance. » Et Mitrani nous dit, Si l'État est capable de satisfaire certains besoins humains, tant mieux, maintenons-le. Mais il existe, nous explique Mitrani, beaucoup de besoins humains qui peuvent être satisfaits de manière beaucoup plus réelle et beaucoup plus convaincante par d'autres instances que l'État. Repartons non pas de l'État, mais des besoins humains et voyons qui et quoi sont les mieux placés pour satisfaire ces besoins. Et donc, je placerai, moi, l'origine de la grande aventure européenne dans cette affirmation. Regardons les besoins humains avant de regarder l'État. Et vous devinez que derrière ce discours que d'aucuns ont nommé fonctionnaliste, parce qu'il s'agit d'abord de chercher à satisfaire les fonctions essentielles de la vie humaine, derrière ce discours, il y a dans le berceau déjà ce grand principe de subsidiarité qui est au centre de la grande aventure européenne. Ce principe de subsidiarité qui consiste à dire « ne partons pas d'un point fixe qui serait l'État, mais voyons qui, quelle institution est capable de satisfaire mieux que les autres les besoins de l'homme. » Et donc, j'insiste sur ce point, il y a à l'origine de l'Europe et de la construction européenne un véritable humanisme, un retour vers l'homme, vers finalement celui qui a été au centre des souffrances des deux guerres et en particulier de l'apocalypse de la Seconde Guerre mondiale. L'État est mis en accusation, on comprend qu'il s'agit de construire autre chose, et dans cette affirmation, on rejoint la grande théorie des fédéralistes européens et les grands noms des grands fédéralistes européens, les Robert Schuman, les Konrad Adenauer, les De Gasperi, Spaak et d'autres. Mais on place finalement l'objectif de cette construction régionale à un curieux niveau. On nous explique, construisons autre chose que des États. Construisons, pour reprendre la formule d'un autre grand spécialiste de l'Europe, Ernest Haas, quelque chose qui soit « beyond the state », au-delà de l'État. Allons vers l'au-delà de l'État. Mais le grand paradoxe de cette première époque de la construction européenne, c'est qu'alors qu'on voulait dépasser l'État, qui a répondu présent pour amorcer cette construction européenne qui devait dépasser les États? Qui donc? Les États eux-mêmes. Et ça, c'est le grand paradoxe de la première étape de la construction européenne. Il s'agissait de dépasser les États, mais dans cette période de pauvreté, dans cette période de reconstruction, les seuls acteurs efficaces, capables de répondre présents à cette invitation, ce sont les États, leurs princes, leurs dirigeants, leurs gouvernants. Grand paradoxe de cette première étape qui va très vite ainsi inverser les utopies d'origine, les utopies fondatrices. Et au rythme des traités, ceux de la CECA, marché commun, le traité de Rome, on va peu à peu s'apercevoir que le principal artisan de cette construction de tous les jours, ce sont les États et à travers les États, les gouvernements, qui vont transformer le rêve de dépassement de l'État en une réalité qui est celle de la coopération intergouvernementale. Et c'est ainsi, sans jargonner, que cette première étape de la construction européenne va recevoir le mot d'intergouvernementalisme pour la qualifier. Le renversement est complet. Il s'agit maintenant de réaliser quelque chose à l'initiative des États, par négociation entre États, par traité passé entre États. Et nous allons la traverser quelques décennies pour finalement rejoindre le début des années 70. Jusqu'au début des années 70, nous étions dans une version platement, banalement intergouvernementale de la construction européenne. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette version banalement intergouvernementale va peu à peu s'essouffler. Et c'est normal qu'elle s'essouffle. Pour trois raisons. La première, c'est que le jeu des États, le jeu des gouvernements, va consister à pousser le plus loin possible la coopération, mais jusqu'à une ligne rouge, ou une ligne jaune, ça dépend où sont vos goûts. Et cette ligne à ne pas franchir, c'est celle de la souveraineté des États. Coopérons jusqu'à ce que nous conservions le plus loin possible, jusqu'à ce que nous conservions notre souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle cette première construction européenne va peu à peu décevoir, parce qu'elle va plafonner dans sa volonté très gaullienne, très gaulliste, de garder cette absolue souveraineté des États. Et le passage d'une Europe qui était d'abord économique à cette Europe politique tant promise et tant appelée, de ce fait, ne va pas se faire. D'où les blocages que nous connaissons dans les années 60 et encore au début des années 70. La deuxième raison, c'est que les Trente Glorieuses vont être un moment de formidable reconstruction économique et peu à peu, on va voir les États en quelque sorte doublés, dépassés par d'autres acteurs, peut-être plus nerveux, plus portés au changement, à la transformation, plus exigeants en matière d'intégration. Et ces acteurs, ce sont les acteurs économiques, les entrepreneurs, les associations, mais aussi les acteurs locaux, régionaux. Bref, toute une série d'acteurs qui vont faire irruption sur la scène européenne et qui ne sauront pas se placer dans cet environnement très intergouvernemental. Et donc, là aussi, malaise. Et la troisième source du malaise intergouvernementaliste, c'est qu'on s'apercevait que cette Europe, en fait, juxtaposition d'États, de 6 États ou de 9 États, ou à l'extrême fin de cette période de 12 États, n'était rien d'autre qu'une nouvelle carte à peine teintée de couleurs nouvelles pour montrer les liens particuliers de ces États entre eux. Mais rien sur l'identité de cette Europe nouvelle, rien sur la description de ces espaces nouveaux qui ressemblaient aux espaces anciens. Toujours les mêmes rivalités, les mêmes animosités. Et c'est ainsi que nous allons entrer dans une deuxième période de la construction européenne. Celle que d'aucuns appellent le néo-régionalisme, pour bien montrer qu'il se distingue du précédent. Nous sommes dans la première moitié des années 70. Le monde découvre ce que l'on appelle la mondialisation, la communication, l'interdépendance, mais il découvre aussi la crise économique. Rappelez-vous, 73 et alentour, peut-être le choc pétrolier, peut-être autre chose, peut-être l'essoufflement, un phénomène de cycle. Toujours est-il que nous entrons dans une crise, et une crise que les observateurs et les acteurs allient volontiers à l'idée de mondialisation. Et là, soudain, les données sont renversées par rapport au discours de l'immédiate après-guerre. Et désormais, les États ne sont plus en position d'accuser. Au contraire, on les plaint, on a peur pour leur survie. Et le discours dominant dans les années 70 va consister à dire « Mais ces États n'ont probablement plus la capacité de faire face aux effets de la mondialisation. Ils risquent d'être asphyxiés, étouffés par les logiques de mondialisation et par la naissance de ce nouveau monde à l'extrême Asie. » Donc l'idée, c'était exactement à l'encontre de ce que l'on avait connu trois décennies plus tôt, non pas de construire la région Europe contre les États, mais de reconstruire la région Europe pour sauver les États, ou du moins ce qu'il en restait. Opération de mise en survie, d'assistance respiratoire pour ces États mal à l'aise, atteints par la crise, bousculés par le changement. Mais on retrouve le même paradoxe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il est inversé. Cette nouvelle construction régionale destinée à sauver les États, qui va en prendre l'initiative? Non plus les États, ils sont malades. Mais ces nouveaux acteurs auxquels je faisais référence tout à l'heure, acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs professionnels, acteurs associatifs, acteurs locaux, qui vont se précipiter dans cette nouvelle histoire de la construction régionale et qui vont en quelque sorte en prendre la tête. Et voilà qui soudain va débloquer la question de la souveraineté, de l'Europe politique, de l'intégration politique. Désormais, c'est l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration régionale qui va être le moteur des transformations politiques. Et voilà qui pointe à l'horizon l'acte unique, et puis Maastricht, et puis Amsterdam, c'est-à-dire une longue marche vers une Europe qui, cette fois-ci, ne sera plus une juxtaposition d'États. curieuse histoire que celle de ce néo-régionalisme, qui n'est pensé, théorisé, prophétisé par personne, mais qui en revanche met en scène de nouvelles pratiques. Désormais, l'invention politique n'est plus à l'initiative des États, mais par ces tractations mystérieuses entre les États et les autres acteurs, devenus acteurs internationaux, les entrepreneurs, les syndicats, les associations, les lobbies, les régions, les villes. Curieuse histoire que cette nouvelle construction régionale, beaucoup plus empirique, beaucoup moins guindée, beaucoup moins tétanisée dans un ordre spatial prédéterminé par des frontières, cette nouvelle construction régionale que nous découvrons au jour le jour va devenir, comme le dit très bien Jean-Louis Kermon, va devenir le moment de la géométrie variable. Nous entrons dans des espaces mouvants, dans des espaces qui se chevauchent, dans des espaces qui ne sont plus régis par des frontières rigides, dans des espaces qui ne sont plus fixes. Regardez maintenant l'Europe quand on en parle, l'Union européenne. On a tout de suite envie, j'ai tout de suite envie de dire, mais de quelle Union européenne parlez-vous ? Est-ce l'Union des 15 ? Est-ce l'Europe de Schengen ? Est-ce l'Europe de l'euro ? Est-ce l'Europe des polices ? Est-ce l'Europe de la coopération régionale ? On voit soudain que cet espace européen n'est plus au singulier, il existe, il coexiste, il se chevauche des espaces européens et des espaces européens qui interagissent. Nous entrons ainsi doucement, mais sûrement, dans un nouvel ordre de la construction régionale, moins institutionnel, moins politique, plus mouvant, laissant finalement à chaque acteur plus d'autonomie, suscitant des coalitions auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà maintenant que des entrepreneurs, des firmes, vont passer des alliances, des compromis, des coalitions avec la Commission contre le Conseil des ministres. Et donc on voit un jeu à trois se constituer, État, Commission, acteur non étatique. On voit maintenant cet espace européen drainer non plus seulement la décision politique, mais aussi la contestation, les mouvements sociaux, Eurogrève par exemple, mais aussi le redéploiement des stratégies de contestation et de mobilisation paysanne. On voit ainsi une paysannerie traditionnelle être plus moderne que généralement les technocrates les mieux cotés, en sachant frapper à quelle porte, non plus à Paris, rue de Varenne, mais directement à Bruxelles, passer des coalitions et des alliances avec d'autres paysanneries, parfois contre d'autres paysanneries également. L'Europe devient un espace de mouvement social. Eh bien, nous en sommes là pour l'histoire, c'est-à-dire nous finissons ce siècle sur le plan de la construction régionale, sur un mode très différent de celui que nous avons connu au début de cette seconde moitié du siècle, c'est-à-dire sur un modèle qui ne ressemble plus du tout ni à la CECA ni au traité de Rome, mais qui devient en quelque sorte un espace d'interaction massive et nombreuse. Alors, tentons maintenant de cerner cette construction inédite, cette histoire particulière, en essayant de saisir les enjeux. C'est-à-dire, sortons de l'histoire, regardons l'Union européenne aujourd'hui, 8 novembre 2000, et essayons de voir comment cette Europe se construit en tentant de répondre à un certain nombre d'enjeux. Si nous arrivons à débusquer les enjeux fondamentaux auxquels se trouve confrontée l'Europe, peut-être parviendrons-nous à une meilleure intelligence de l'Europe. Car encore une fois, je ne crois pas aux choix politiques souverains, majeurs. Je crois à la nécessité pragmatique de faire face au quotidien à un certain nombre d'enjeux. Ces enjeux, certains peuvent considérer qu'ils sont 2, 3, 4, 5 ou 6, peu importe. Moi, j'en privilégierais 4. 4 qui me paraissent structurés. L'état de l'Europe aujourd'hui. D'abord, l'aménagement de ce grand défi qu'est le post-souverainisme. Savoir donner une réponse à la faillite de la souveraineté. Deuxième enjeu, créer une nouvelle démocratie, alors que notre démocratie nationale s'essouffle. Troisième enjeu, se définir par rapport aux hégémonies internes et externes. Quatrième enjeu, se doter d'une identité. Ces quatre enjeux que je situe davantage, comme vous le voyez, sur la scène politique, d'abord parce que je suis politiste, mais fondamentalement parce que je crois que nous sommes arrivés à un moment politique de l'histoire européenne et de la construction européenne, ces quatre enjeux, essayons de les distinguer. Le post-souverainisme, c'est devenu un mot de tous les jours. Nous sommes entrés dans un monde post-souverain. Post-souverain, vous faisiez allusion à mon dernier ouvrage, Un monde sans souveraineté, donc je ne vais pas plaider le contraire aujourd'hui. Un monde post-souverain, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vieille souveraineté, celle que Bodin définissait au XVIe siècle, est en train de faillir et de défaillir. La vieille souveraineté, arrêtons-nous une seconde sur elle, parce que nous en sommes les héritiers directs. Vous vous rappelez, nos cours d'histoire d'autrefois, 1576, Jean Bodin publie les 6 livres de la République, et il écrit dans un contexte lourd. 1576, c'est 1572 plus 4, c'est-à-dire il écrit probablement au moment même de la Saint-Barthélemy, dans une situation de chaos, guerre de religion, mais non seulement une situation de chaos, mais dans une situation d'ingérence. Les Espagnols aux côtés des catholiques, les Anglais aux côtés des protestants, vous voyez, rien de nouveau, déjà l'ingérence. Et face à ce double échec de la République, ce que Bodin appelle la République au sens classique du terme, échec qui s'exprime dans le chaos et qui s'exprime dans l'ingérence, Bodin nous dit « il n'y a pas de République qui ne dispose de la souveraineté, c'est-à-dire du pouvoir ultime, du pouvoir impersonnel, du pouvoir absolu. » Un siècle plus tard, à peine, 1651, Hobbes, de l'autre côté de la Manche, dans un contexte équivalent, celui des guerres civiles, de la guerre civile anglaise, publiera le Léviathan où il nous dira à sa manière à peu près la même chose. Face au chaos, un Léviathan qui, confisquant une part de notre liberté, reçoit, nous donne en échange de la sécurité et construit ainsi la souveraineté, le souverain, le Léviathan. Eh bien, Bodin et Hobbes avaient mis probablement la barre très haut. Car peut-on concevoir une république qui dispose du pouvoir ultime, c'est-à-dire d'un pouvoir qui ne serait ainsi précédé par aucun autre pouvoir? Le sociologue, le politiste, qui sont généralement des gens mal élevés, vous disent que ça n'a pas de sens. Comment peut-on concevoir, imaginer un pouvoir qui ne serait précédé d'aucun autre pouvoir? Même le président des États-Unis, dans la délibération de sa politique étrangère, est-il souverain ou est-il soumis à d'autres pouvoirs qui le précéderaient, lobbies, flux transnationaux, multinationales, groupes de pression de toute nature? Il n'y a pas de vide en politique. Derrière un pouvoir, il y a toujours un autre pouvoir. Mais pourtant, la fiction a tenu. Cette fiction du pouvoir souverain a tenu des siècles et des siècles. Elle a défini, organisé notre système international, donné un droit à notre État, structuré notre pensée politique, notre philosophie politique et nos comportements politiques, nos attentes, nos valeurs. Aujourd'hui, on sait que cette souveraineté est mise à l'épreuve, que cette fiction, même en s'affirmant et en s'affichant comme fiction, est véritablement en péril. Elle est véritablement en péril et du coup, il faut repenser le politique. Et non seulement il faut repenser le politique, mais il faut repenser le rapport entre ces États qui, désormais, ne sont plus souverains. Et s'ils sont plus souverains, eh bien, M. de la Palice nous a expliqué et nous explique encore aujourd'hui que s'ils sont plus souverains, ils doivent s'organiser dans un monde post-souverain. Et pourquoi ne sont-ils plus souverains? D'abord parce que nous vivons une formidable prolifération du nombre d'États. La souveraineté à 10, au XIXe siècle, la belle époque des systèmes, enfin belle époque, si vous voulez, des systèmes méternichiens ou bismarckiens, ce monde à 7, 8, 9 ou 10 n'est plus le monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde à 200 États. Et nous sommes dans une Europe qui est une Europe fragmentée, encore plus fragmentée aujourd'hui qu'hier. depuis l'effondrement de l'URSS. Et cette fragmentation qui se poursuit dans les Balkans et qui probablement n'a pas atteint son point de saturation, cette fragmentation crée des situations inédites. Quand on est nombreux, les déséquilibres de puissance sont d'autant plus remarquables et ces déséquilibres de puissance éteignent la prétention souveraine. Et surtout, plus on est nombreux, plus cette déficience de puissance publique qui frappe le petit doit être comblée par autre chose. Autre chose, ça peut être une privatisation de la puissance, paradis fiscaux. Un petit État au sud de la France, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui soudain passe de point de vue image du monde au monde. Mais les paradis fiscaux, ceux-ci sont nombreux, criminalisation, mafia. Bref, cette privatisation accélérée de la puissance vient en quelque sorte ébranler le souverain qui devient colosse au pied d'argile. Surtout, deuxième facteur, deuxième raison, de cette prolifération d'États dérive bien entendu une interdépendance entre les États. Plus les États nombreux sont nombreux, plus ils sont interdépendants. Mais cette interdépendance interroge autre chose. L'interdépendance est telle aujourd'hui qu'il n'y a plus d'action publique souveraine. L'action publique, celle par exemple d'un choix budgétaire par un gouvernement, devient impossible sans entrer dans les paramètres de ces choix budgétaires, les choix budgétaires de l'autre. On ne peut plus toucher à la politique budgétaire de la France sans tenir compte de ce qu'est la politique budgétaire de l'Allemagne ou d'un autre voisin. Proche ou lointain, une crise monétaire au Mexique et c'est tout le monde qui est ébranlé. Bref, cette interdépendance fait que les frontières sont devenues légendes, pénétrables à merci. Et puis, troisième élément, nous vivons en cette fin de XXe siècle quelque chose de tout à fait nouveau. Les biens publics ne sont plus des biens souverains, et cela dans l'aventure de l'Europe, c'est une révolution profonde. Nous avons appris à l'école, à l'université, autrefois, que tout bien public était bien souverain. Eh bien non, aujourd'hui, les biens les plus publics sont précisément les biens les moins souverains, parce que les biens les plus publics ne supportent pas le partage entre États souverains. Ces biens publics deviennent biens communs de l'humanité. Les biens environnementaux, l'eau, l'air, mais aussi les biens symboliques, les droits de l'homme, mais aussi le développement économique et social, tout ça, ce sont des biens qui ne résistent pas au partage souverain ou souverainiste, mais qui ne peuvent être gérés que par l'humanité tout entière, ou par ces espaces intermédiaires que sont les constructions régionales. La protection de l'environnement, la gestion des biens environnementaux est évidemment beaucoup plus efficace au niveau de l'Europe construite qu'au niveau de chaque État européen. Eh bien, cette souveraineté démantelée, cette souveraineté cassée, cette souveraineté victime de l'abolition des distances, cette souveraineté victime de la porosité croissante des frontières, cette souveraineté rend caduque notre géométrie classique de l'État, notre grammaire classique de l'État. Et donc ça, c'est un des grands enjeux de l'Europe aujourd'hui. Comment imaginer un monde post-souverain, c'est-à-dire capable de dépasser ces égoïsmes souverains pour construire cette communalisation des biens, pour construire cette interdépendance, pour équilibrer cette fragmentation presque infinie de la carte des États. Premier enjeu. Deuxième enjeu, la démocratie. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, bien sûr, c'est notre bien le plus cher. Mais qu'est-ce que la démocratie ? Le grand sociologue allemand Jürgen Habermas nous dit dans son dernier livre, Après l'État-nation, enfin, dernier livre traduit en français, il nous dit, finalement, la démocratie suppose une coïncidence entre les espaces de délibération et les espaces de décision. La définition n'est pas très originale, elle est très bonne. Pour qu'il y ait démocratie, il faut que l'espace soit le même pour ceux qui décident et ceux qui choisissent, qui votent. Or, Ceci est fini. Nous délibérons essentiellement au niveau national, alors que la plupart des grandes décisions se prennent au niveau régional, voire au niveau mondial. Résultat, les enjeux qui font nos élections législatives ou présidentielles deviennent dérisoires par rapport aux enjeux fondamentaux que sont le commerce international, que sont la politique des droits de l'homme, que sont les grands chapitres de ces biens communs de l'humanité auxquels je faisais référence tout à l'heure. Ceux qui délibèrent et ceux qui décident ne sont plus au même niveau. Le grand enjeu auquel se trouve confrontée l'Europe, c'est de réconcilier au maximum le niveau de la délibération et celui de la décision. L'espace délibératif, l'espace électoral et l'espace de décision. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans une logique qui conduit immanquablement à dessiner une communauté politique européenne et à faire de celle-ci le lieu principal de notre délibération, alors qu'il faut bien admettre aujourd'hui que l'élection au Parlement européen reste un élément marginal, accessoire, presque gadgetisé de notre action politique démocratique. Bref, la démocratie s'exerce là où on ne décide plus et elle ne s'exerce pas là où on décide. Voilà un grand défi pour la décennie à venir. Voilà un enjeu majeur. Troisième enjeu, l'hégémonie. L'Europe doit se définir face à des hégémonies extérieures. L'hyperpuissance américaine, mais qui n'est pas aussi hyperpuissante qu'on le dit, peut-être en discuterons-nous tout à l'heure, ce n'est pas le sujet central de cette conférence. Hégémonie asiatique, c'est-à-dire en tous les cas de ce flanc extrême-oriental de l'Asie, mais hégémonie aussi à l'intérieur de l'Europe. Car c'est une bien curieuse aventure que celle des constructions régionales, dans la mesure où elle tend, de façon surprenante et contradictoire par rapport aux enjeux que je viens de définir, à donner une prime aux plus puissants. Triangle, France, Grande-Bretagne, Allemagne, ou, pour rester dans le plus évocateur, binôme, couple franco-allemand pour l'Europe. Comme l'Afrique du Sud domine la SADC, comme Brésil et Argentine, et peut-être Brésil tout seul, domine le Mercosur, comme les États-Unis dominent le NAFTA à l'ENA. Bref, dans chaque construction régionale qui se veut justement une régénération du politique, on retrouve un dominant. Grand enjeu, dont vous savez qu'il fait le menu des grandes conférences intergouvernementales d'aujourd'hui, et notamment de la conférence intergouvernementale qui va s'ouvrir le mois prochain à Nice et qui devra décider, dit-on, d'une repondération des voix à l'intérieur de la délibération européenne et donc une redéfinition des plus puissants par rapport à ce que l'on appelle, sur un mode un peu méprisant, les petits. Post-souverainisme, démocratie, hégémonie, identité, enfin. Vous savez que l'identité, c'est la question rituelle et récurrente de toute réflexion sur le social. Et je dirais de toute réflexion sur l'humain. Qui suis-je ? Et qui suis-je, c'est comment je me construis par rapport à l'autre. Comment je construis l'altérité ? Quelle est l'altérité de l'Europe ? Et là, nous sommes à la croisée des chemins. Avec la guerre froide, avec la bipolarité, l'altérité de l'Europe, elle était assez claire, elle était grossièrement géopolitique. Cette Europe en construction, c'était celle du libéralisme et de la démocratie face à l'Europe socialiste et monopartisane. Et donc, en gros, sans le proclamer, parce que ce n'était finalement pas très glorieux, l'identité européenne était cette identité géostratégique qui la distinguait de l'Europe d'au-delà du rideau de fer, comme on disait. Maintenant, prendre la géographie pour définir l'Europe devient incertain, aléatoire. Qu'est-ce que c'est la géographie européenne ? Elle va jusqu'où ? Est-ce que, comme le disait le général de Gaulle, elle va de l'Atlantique à l'Oural ? Est-ce qu'elle inclut le Caucase ? Est-ce qu'elle inclut la Russie ? La Russie est-elle ou n'est-elle pas ? Est-ce qu'elle inclut la Turquie ? La Turquie est-elle ou n'est-elle pas ? Et ainsi de suite. La géographie ne nous sert plus à rien. Il y a un autre danger, je dirais danger, qui se profile. C'est une définition culturelle de l'Europe. l'Europe serait chrétienne, l'Europe serait occidentale, l'Europe serait blanche, ou je ne sais quoi. Définition dangereuse. Car définition qui crée l'hostilité et le conflit. L'Europe serait-elle donc contre l'autre, contre l'Afrique du Nord, contre le Proche-Orient, contre les États-Unis, contre l'Asie? Grand défi. Défi, défi, défi. Défi, quatre défis. Voyons maintenant, et pour terminer, l'avenir, c'est-à-dire comment faire face à ces défis. On peut, avec beaucoup de prudence, et je crois avoir pris toutes mes précautions en introduction, dessiner trois axes de réflexion pour l'avenir de l'Europe. Première réflexion, quelle va être la grammaire politique de l'Europe? C'est-à-dire comment les partis IES, vont se définir par rapport au tout. Deuxième question, les relations internationales de l'Europe. L'Europe et sa sécurité. Et troisième et tout dernier axe de réflexion sur l'avenir de l'Europe, la construction de cette identité dont je venais d'indiquer qu'elle était un enjeu majeur auquel l'Europe était confrontée aujourd'hui. Répondre à la première question, examiner la première direction, celle qui intéresse finalement la grammaire politique de l'Europe, la manière dont les parties sont liées entre elles, nous engage dans cette direction périlleuse que je notais tout à l'heure, c'est-à-dire construire un vocabulaire politique de l'Europe, construire une sorte de lexique qui nous permettrait de nommer cette façon nouvelle dont le politique est construit à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne. Je vous disais tout à l'heure que l'Europe n'est plus seulement une addition d'États et n'est pas non plus un nouvel État, et probablement, voilà un des risques que je prends ce soir, elle ne sera jamais un État-nation. Alors, la réflexion oscille entre ces deux pôles que je vous présentais tout à l'heure, le pôle conservateur, intergouvernemental, c'est-à-dire prolongeons cette Europe des patries, cette Europe des États, certains parlent aussi aujourd'hui d'une Europe des nations, pôle intergouvernementaliste donc, et à l'autre bout, ce pôle fonctionnaliste qui ne cesse de renaître de ses cendres, même s'il a été défié et mis en échec, qui consiste à dire, eh bien, nous sommes en train de découvrir une formule nouvelle, l'État n'est plus qu'un pôle parmi d'autres, et le mot miracle est lancé, qu'est-ce que l'Europe? Une nouvelle gouvernance, vous connaissez ce mot, cette nouvelle gouvernance, c'est-à-dire ce mot qui a été en quelque sorte inventé, qui sonne assez mal, pour désigner cet ordre politique qui se dégage non plus seulement de l'interaction entre acteurs politiques, mais de l'équilibre, de l'harmonie négociée au jour le jour entre ces différents acteurs qui on voit au chapitre, y compris les acteurs économiques, les acteurs sociaux et aussi ces acteurs régionaux. Mais alors, qu'y a-t-il derrière cette nouvelle gouvernance? Je hasarderai trois hypothèses. La première, c'est une déhiérarchisation du politique. Qu'est-ce que la hiérarchisation du politique? C'est l'idée tout bête dont nous sommes les héritiers avec l'aventure de l'État, qu'il y a un niveau politique supérieur aux autres qui est le niveau de l'État. Nous avons fonctionné comme cela depuis la Renaissance, depuis l'invention de l'État, et donc nous considérions que ce niveau privilégié était le niveau souverain, comme je l'indiquais tout à l'heure, et instituait le politique selon l'ordre de la hiérarchie. Tout dérive de ce niveau plus valorisé que d'autres. Eh bien, je crois que ceci est terminé. Nous vivons une déhiérarchisation du politique. Nous vivons, en quelque sorte, une logique de multiniveaux, de niveaux multiples, d'interaction entre des niveaux multiples. La langue anglaise, qui se prête mieux au bricolage que la langue française, parle de « multi-level game », de jeu à niveau multiple. Peut-être l'intelligence politique de l'Europe entre-t-elle dans cette nouvelle vision, C'est-à-dire, le politique devient une interaction entre des niveaux de droits égaux qui seraient le local, le régional subnational, le national et le niveau européen. Ces quatre niveaux feraient en quelque sorte la particularité, l'originalité de l'Europe. Nous interagirions entre ces quatre niveaux, nous les choisirions selon le principe de subsidiarité en fonction des enjeux à réaliser. Nous serions en quelque sorte insérés dans un magnifique millefeuille qui, si vous êtes comme moi gourmand, est, je crois, agréablement évocateur. Ça, c'est la déhiérarchisation du politique. Il en est un autre niveau d'appréhension de cette gouvernance nouvelle, qui est la multi-allégeance. Nous entrons dans un monde d'allégeance déhiérarchisée, d'allégeance multiple. Nous étions dans un monde où l'allégeance qui dominait était l'allégeance citoyenne, par définition supérieure aux autres, prioritaire. Nous entrons dans un monde où nous appartenons en même temps à notre entreprise, à notre quartier, à notre ville, à notre région, à notre État, à l'Union européenne, mais aussi à tout un tas de réseaux associatifs, de mouvements, d'associations de toute nature. D'une carte d'identité simple, nous transformons en porteurs d'un nombre de plus en plus important, de plus en plus élevé de cartes d'identité. Nous choisissons cette carte d'identité en fonction de l'interlocuteur que nous avons en face. Je n'aurai pas la même carte d'identité si je vais acheter mon pain au coin de ma rue, et si, au contraire, je vais voter, ou si je vais enseigner en Allemagne, ou si je vais militer dans un réseau associatif. Cette multi-allégeance fait de chaque individu l'électron de ce nouvel ordre régional. Nouvelle gouvernance par multi-allégeance. Et enfin, troisième élément qui fonde cette gouvernance, j'y ai fait référence tout à l'heure, multispatialisation. Nous sommes en même temps dans plusieurs espaces. Et ces espaces sont mouvants, ils ne sont plus fixes. Et c'est dans la mobilité, et non plus dans le statisme, que nous allons trouver les conditions de notre accomplissement et de l'innovation. Cela, l'Europe est capable de nous l'offrir. Voilà donc pour la question du politique, du rapport de la partie au tout. Voyons maintenant l'Europe dans le système international. Et là, c'est une autre affaire. L'Europe dans le système international, je dirais, c'est l'Europe face à une nouvelle sécurité, face à de nouveaux espaces, face à un système international tout à fait inédit. La sécurité. Je crois qu'on néglige trop cet aspect. Ou plutôt, on a trop tendance à le traiter sur le mode de la continuité, alors que la sécurité n'a plus aujourd'hui le sens qu'elle avait hier. La sécurité de nationale et militaire est devenue globale. Et non seulement la sécurité est devenue globale, mais elle est devenue, et heureusement de plus en plus, humaine. La sécurité aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'équilibre des forces, ce n'est plus seulement l'équilibre de la puissance. La sécurité aujourd'hui, c'est autant, et nous le savons, la sécurité alimentaire, la sécurité écologique. C'est autant la sécurité économique, la sécurité sociale, le bien-être. Bref, tout un ensemble de secteurs qui ramènent à l'homme en général et qui s'arrachent à la construction classique de la notion de défense nationale pour introduire l'idée d'une défense diffuse, d'une défense qui renvoie à des espaces élargis. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement une mutation, passage de la sécurité militaire à la sécurité globale, c'est aussi une régionalisation. Nous ne sommes plus dans un monde bipolaire. Donc la sécurité à laquelle nous sommes confrontés, ce n'est pas cette unique sécurité de l'Ouest face à l'Est et réciproquement. C'est une sécurité qui crée des enjeux à nos portes. Regardez les Balkans. C'est une sécurité qui érige l'Europe en puissance régionale, ce qu'elle n'était pas autrefois. Dans un modèle bipolaire, l'Europe n'était qu'un élément plus petit de la sécurité occidentale. Aujourd'hui, l'Europe devient un élément majeur d'une sécurité régionale. c'est-à-dire l'incendie qui est à nos portes des Balkans, mais pas seulement les Balkans, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, et puis en nos murs aussi, les minorités identitaires qui se réveillent. Eh bien, je crois que si vous composez, si vous combinez ensemble cette sécurité globale et cette sécurité régionale, nécessité faisant loi, nous assistons, et c'est bien heureux ainsi, à la découverte de ce que peut être véritablement une sécurité européenne. Idée à laquelle on ne croyait plus depuis l'échec de la CED, de la Communauté européenne de défense, mais qui devient naturelle, et même les plus souverainistes, les plus frileux d'entre les États, la Grande-Bretagne en particulier, mais aussi la France post-gaullienne ou post-gaulliste, deviennent les champions de cette sécurité européenne. Saint-Malo, rappelez-vous, cette déclaration franco-anglaise à Saint-Malo. Toulouse, déclaration franco-allemande sur la sécurité, qui découvre au quotidien que l'Europe se construit dans la promotion et l'invention d'une sécurité européenne. Les fraternités d'armes, les contacts quotidiens entre les contingents anglais, allemands, français, italiens au Kosovo, voilà qui crée en direct, sans grande décision politique majeure, une sécurité européenne, qui s'incarne ainsi comme une réalité d'évidence. Et là, je crois que les choses pourront aller très vite. Redéfinition de la sécurité, déterritorialisation du monde. Nous sommes dans un monde où la communication l'emporte sur le territoire, où la société ouverte l'emporte ou devrait l'emporter sur la société fermée, où les relations humaines l'emportent sur les relations territoriales. Bref, nous sommes dans un monde où le territoire compte infiniment moins que l'association, que l'invention, que la communication. L'Europe devient ainsi, dans le monde, un espace de communication et d'échange. C'est un autre des défis internationaux qu'elle parvient à relever. Le temps tourne, je ne développe pas. Enfin, face à un système qui se veut unipolaire, mais je corrigerai aussitôt, nous sommes dans un système international qui se veut unipolaire, mais qui n'est pas unipolaire, qui se veut organisé autour de la puissance américaine, mais cette puissance américaine est plus que jamais au paradoxe, mise au défi. Les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis la guerre de Corée, et ils en ont perdu plusieurs. Les États-Unis n'arrivent pas à faire face à ces nouveaux conflits internationaux, qui embrase l'Afrique, qui embrase le Proche-Orient. La Pax Americana est mise en échec un peu partout dans le monde, et nous le voyons aujourd'hui au Proche-Orient. Bref, ce monde se veut unipolaire, a un discours de l'unipolarité, mais l'unipolarité ne fonctionne pas. L'Europe, dans un système unipolaire qui ne fonctionne pas, a donc une diplomatie à produire et à exprimer. Je terminerai cette conférence sur ce qui m'est le plus à cœur. Quelle identité alors pour l'Europe ? Je ne crois pas à l'identité culturelle, et pourvu qu'elle ne voie jamais le jour, car c'est une nouvelle division du monde qui prendrait alors sa place. Je ne crois pas à une identité géographique, car je n'ai jamais cru à la géographie, sauf à prendre par cœur les capitales des États ou les chefs-lieux de département. Mais je ne crois pas que la géographie serve tellement plus les besoins de l'humanité. Je crois en revanche que l'Europe est en train de découvrir sa véritable identité. Et cette véritable identité, c'est une communauté de valeurs partagées. Croyance en la démocratie, croyance dans les droits de l'homme, croyance dans un certain humanisme. C'est bien cela qui rassemble les États de l'Union européenne. Et c'est ceci qui doit gouverner l'élargissement de l'Europe. Qu'un État reflète la même vision que la nôtre en matière de démocratie et de droits de l'homme, et il a naturellement la place, sa place dans l'Europe, qu'il ait une autre conception du politique, et il n'y a pas sa place. L'Europe n'a d'autre identité que dans l'invention d'une communauté nouvelle qui n'est ni culturelle, ni même économique, mais qui est politique. La plus belle phrase, mesdames et messieurs, en politique, on la doit à Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'au XVIIIe siècle, il nous disait « il n'est de peuple que celui qui s'institue ». Eh bien, il n'est d'Europe que celle qui s'institue au nom de valeurs communément partagées. Et c'est au nom de cela et à cause de cela que l'Europe ne se construira qu'en étant impeccable dans sa défense de la démocratie et des droits de l'homme. au nom de quoi l'Europe a bien fait, même symboliquement, de rappeler à l'ordre l'Autriche, comme elle devra le faire si M. Bossi ou M. Fini entrent dans un gouvernement italien, pour les mêmes raisons, et comme elle le doit le faire si un jour les gens du Front National venaient pervertir une coalition gouvernementale en France. Ce sont bien ces valeurs, ce témoignage contre la peine de mort qui nous distingue des États-Unis, pour cette Cour européenne des droits de l'homme qui s'est rappelée à l'ordre, y compris les États européens. C'est là que vit l'Europe et que vit cette identité éminemment politique qu'est la communauté politique européenne. C'est à travers ces promotions, cette promotion, que nous serons les citoyens de l'Europe et donc que nous pourrons ainsi atteindre une vraie citoyenneté internationale. Je vous remercie.
J'avais deux questions, en fait. La première, c'est ta touche plus l'identité européenne, et la deuxième aussi, en fait. La première, c'est... vous avez parlé d'humanisme, de renaissance. Je parle d'un cas pratique, c'est le drapeau européen. Il a un symbole chrétien. Est-ce que l'Europe est laïque aujourd'hui? La deuxième question, c'est l'identité européenne. Moi, je suis étudiant en géographie, donc je ne crois pas à la fin du territoire. Je crois qu'il n'y a pas de déterritorialisation, mais une re-territorialisation, étant donné que les frontières ne sont plus rigides, mais mouvantes. Donc il y a de nouvelles frontières, il y a plus de frontières, il y a une autre géographie. Donc ma deuxième question, c'est sur l'identité européenne. On a appris, notamment en géographie, que l'Europe, c'est le nom qui a été donné à une déesse avant d'être grecque, tyrrhénienne, autrement dit libanaise. Donc ma question, ça porte sur les frontières de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, non seulement l'Europe est-elle laïque, mais où s'arrête-t-elle si cette question a une pertinence? Doit-on admettre la Turquie, par exemple?
L'Europe est laïque. Bon, on peut épiloguer sur les symboles européens et on peut aussi, bien entendu, enregistrer les professions de foi de ceux qui donnent à l'Europe un fondement religieux. On ne s'en sortira pas. Je pense que si on avance sur cette ligne de front, on ne s'en sortira pas parce que on va reconstruire à l'intérieur de la maison Europe une terrible épuration ethnique. C'est-à-dire que l'Europe, à travers la France, à travers l'Allemagne, à travers tant d'autres États, est aussi musulmane. Elle est aussi juive. Et lorsque, tout à l'heure, je citais Rousseau, c'est parce que je crois que ce qui fait la force de ce philosophe, c'est qu'en parlant, il pensait ou il prépensait l'État, mais il prépensait aussi toute autre forme de construction de communauté politique. C'est-à-dire, il y a cette idée que finalement, si la politique, comme je le crois profondément, c'est la science de la coexistence, la cité à l'identique n'est pas politique. C'est-à-dire, la cité à l'identique, celle qui se construit à partir de l'exclusion et de la seule acceptation de celui qui est conforme à l'idée que je me fais de mon identité, alors à ce moment-là, on assiste à la fin de la politique. Donc l'Europe ne pourra survivre qu'en étant laïque. Et je pense que de ce point de vue, nous avons quand même en Europe assez significativement progressé. Il est d'ailleurs très intéressant, j'ai eu l'occasion de diriger une thèse sur ce sujet qui m'a passionné, de voir comment les réseaux d'immigrants, et notamment d'immigrants maghrébins, savent jouer de l'Europe, et jouer au sens noble du terme, n'est-ce pas ? Donc je crois beaucoup dans les vertus de l'intégration politique et donc d'une intégration laïque. Sur frontières et territoires, vous pardonnerez tout à l'heure ce petit coup de griffe à la géographie qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire cette science est une science que j'aime bien, mais qui me met dans un état d'insatisfaction, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a tendance à vouloir demeurer être. Mais la manière dont vous posez le problème, moi, me satisfait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez cette idée de frontières mouvantes, de frontières poreuses, etc., bon, à ce moment-là, nous reconstruisons la notion de territoire de manière complète. Vous dites que vous ne croyez pas à la fin des territoires. Bon, ce mot « fin des territoires », je n'épiloguerai pas sur lui et sur l'auteur de cette formule, mais ce qui me paraît évident, c'est que nous vivons la fin du principe de territorialité. Ce principe de territorialité qui fait du territoire la marque indélébile et absolue de la compétence du politique et de l'État. Je pense que nous sortons de cela. C'est-à-dire le territoire n'est plus attributif de compétence. Et de ce point de vue-là, cette vision de l'État qui courait depuis Westphalie, j'allais dire, jusqu'à Max Weber, n'est-ce pas ? Cette vision territoriale du politique me semble ne plus avoir cours. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis où s'arrête l'Europe ? Ben, j'ai essayé de construire ma conclusion sur cela. Elle s'arrête là où ce qui fait cette communauté politique s'arrête, c'est-à-dire là où les vraies valeurs sur lesquelles se trouve construite l'Europe, c'est-à-dire démocratie, droits de l'homme, respect de l'autre, cité de la coexistence, là où ça s'arrête. La Turquie a tout à fait vocation à entrer en Europe, comme le Maroc, comme l'Algérie, et ainsi de suite, à mesure qu'il y aura ce partage des valeurs de démocratie et des droits de l'homme. Et de ce point de vue, notre différence par rapport aux États-Unis, sans anti-américanisme primaire, est une vraie différence. Je pense que l'Europe a cette carte à jouer d'être le vrai lieu des droits de l'homme. Et l'Europe, en inventant la Cour européenne des droits de l'homme, a fait un pas gigantesque. Dommage que tous les États européens n'aient pas été à égal rôle les porte-étendards de cette Cour criminelle internationale en train de s'instituer. Dommage que la France ait un peu été en dessous de sa réputation dans ce domaine. Mais on voit bien cependant cette carte de l'Europe comme communauté politique se dessiner. C'est la mienne, c'est ma conception des frontières de l'Europe.
Une question de l'autre côté. Monsieur, levez-vous.
Oui. Bonsoir, monsieur. Après votre remarquable exposé, vous avez en particulier parlé des principaux enjeux de l'Europe. J'étais surpris que vous ne citiez pas les enjeux économiques. Parce que nous sommes dans une lutte, l'Europe prend du retard depuis 10 ans par rapport à la principale nation hégémonique, les USA, et probablement par un manque d'ambition de l'Europe dans de nombreux domaines, en particulier en milieu pour ce qui est la recherche militaire, scientifique, cela provoque des fuites des cerveaux, des fuites de capitaux, et il pourrait y avoir une dislocation de l'Europe si nous ne réussissons pas à avoir une croissance et un développement que toute l'Europe espère. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet.
Oui, je vous disais tout à l'heure, un peu sous forme de boutade, mais pas seulement, qu'en tant que politiste, j'avais tendance à privilégier l'aspect politique du sujet sur l'aspect économique. Mais ce choix reposait sur deux autres convictions, qui d'ailleurs ne contredisent pas ce que vous dites. La première conviction, c'est que je crois que nous sommes arrivés à un moment politique. L'Europe s'est peu à peu mise en marche à partir de la définition d'objectifs économiques. La politique agricole, puis ensuite un positionnement dans le commerce mondial, dont d'ailleurs les succès sont inégaux, point d'aboutissement, l'Europe monétaire. Bien. Je crois que nous sommes en train maintenant d'entrer dans un autre moment de l'Europe, qui, bien entendu, n'éteint pas du tout les défis économiques et ceux que vous soulevez, mais détourne en quelque sorte le projecteur vers le noyau politique, vers la question politique. Pour une raison très simple, c'est que ces logiques d'interdépendance de nature économique, ces défis économiques auxquels vous faites référence, le pari européen, c'est aujourd'hui qu'on peut les surmonter si on change d'Europe, c'est-à-dire si on passe à une Europe politique. Et donc, je crois que l'aspect libre-échange à l'intérieur des frontières de l'Europe, l'aspect équilibrage des autres pôles de développement économique, l'aspect, effectivement, rattrapage du retard en matière technologique, tout ceci est source de consensus entre les acteurs européens. Et conduit peu à peu à l'idée que Tout ceci sera traité si nous passons au chapitre politique. Et de ce point de vue-là, je crois que l'Europe monétaire a marqué une charnière. À partir du moment où on construit l'Europe monétaire, on entre dans le domaine régalien, c'est-à-dire véritablement on entre dans le domaine de la souveraineté. Et je n'ai pas parlé du tout d'un autre aspect, mais qui me paraît rejoindre celui-là, qui est l'Europe de l'opinion. C'est-à-dire, du moment où on est sorti des impératifs économiques pour entrer dans la vision politique de l'Europe, on a vu les opinions se réveiller. Jusqu'à maintenant, l'individu n'était européen que par l'intermédiation de son syndicat, de son association professionnelle ou je ne sais quoi. À partir du moment où on entre dans l'espace politique, l'individu se sent sollicité dans sa globalité, dans sa totalité. D'où la naissance de cette opinion européenne.
Une dernière question, là, rapide.
Oui, ça risque d'être... Je vais essayer d'être très bref. Vous avez brossé un tableau d'une réalité très complexe et vous avez abordé une masse de données. Et je me demande, devant ce tableau diffus, s'il faut se contenter de survoler en rase-motte ou de voir les choses d'un peu haut. Je vous dirai tout de suite que mon opinion de base est tout à fait différente de la vôtre, dans ce sens que, voyez-vous, vous devez le savoir, en 1943, en Afrique du Nord, De Gaulle se promenait avec à ses côtés Macmillan. Et Macmillan lui disait, vous connaissez peut-être cette anecdote que De Gaulle cite d'ailleurs, Macmillan lui disait, je ne sais pas, on avait dû voir quelques troupes françaises et dire que je suis heureux d'assister à la renaissance de la France, à la renaissance de la France. Et De Gaulle de lui répondre, vous savez, moi la France, je me sens français depuis 2000 ans. Eh bien, je vous dirais tout simplement que je me sens européen depuis 2000 ans. Voyez-vous, et dans tout ce que vous avez décrit, il y a un point où vous êtes resté vraiment dans le flou. C'est ce qui concerne l'identité de l'Europe. Et vous avez été jusqu'à dire que car je pense qu'il faut la définir, cette identité. Eh bien, cette culture risque d'être hégémonique, donc ce n'est pas ce qui fait le lien. Alors, vous avez prononcé un mot qui s'appelle démocratie. C'est un mot grec. C'est les Grecs qui ont inventé la démocratie. C'est les Grecs qui l'ont inventé, la démocratie. En tous les cas,
on le dit.
En tous les cas, le mot. Et je suis content de pouvoir dialoguer un peu, parce que si vous voulez
soyez
voir
bref,
clair, oui, je vais être bref. Je vous dirai en tous les cas, voyez-vous, je vous dirai en tous les cas que, voyez, il y a même des gens qui me donnent raison.
moi j'ai la montre qui me donne raison.
Très bien. Non, mais quand même, disons un fait. Voyez-vous, j'ai vécu dans des centres universitaires et
monsieur,
il s'est produit ceci, c'est que...
Je vais être obligé de couper votre micro, posez votre question.
Non, mais écoutez, je voudrais quand même rendre hommage à ce qu'a dit monsieur, n'est-ce pas, sur l'Europe. Et on constate, si vous voulez, que cette souveraineté, en particulier en France, eh bien, certaines classes s'étaient appropriées cette souveraineté. Et on s'aperçoit que quand on regarde ce qui se passe à côté, je pense par exemple au corps des professeurs de l'enseignement, n'est-ce pas, ils constituent une caste et on s'aperçoit que ce n'est pas la même chose ailleurs. Et je pense que c'est la question que je vous pose. Est-ce que ça va évoluer ?
Est-ce que mon corps va évoluer ? Est-ce que le corps des professeurs d'université va évoluer ? Vous savez, moi je trouve que l'un des grands miracles de l'Europe, c'est que je vais enseigner en Allemagne, je délivre des diplômes allemands, des collègues allemands viennent enseigner en France, délivrent des diplômes français. Je trouve que c'est une évolution plus substantielle que la structure indiciaire du corps des professeurs d'université. C'est quelque chose que je trouve tout à fait remarquable. Pour le reste, permettez-moi juste de vous répondre sur deux points. La démocratie. La Grèce a inventé une forme de gouvernement qui n'a d'ailleurs que des rapports extraordinairement lointains avec ce que nous appelons démocratie. Si je prends les repères de la classification aristotélicienne, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en aristocratie. C'est-à-dire le gouvernement...
Je n'ai plus le micro pour vous répondre.
Oui, non, s'il vous plaît. Laissez monsieur Madi s'exprimer.
La démocratie grecque n'a absolument rien à voir avec ce que nous appelons démocratie aujourd'hui. Et regardez, lisez un certain nombre d'ouvrages sur les cités sumériennes, sur la Phénicie, sur... ça existe aussi. Et il y a aussi des leçons de gouvernement, des leçons de participation politique qui me paraissent importants à méditer. Dans la tradition africaine, il y a une tradition de la démocratie que nous n'avons jamais pu avoir, nous, dans notre histoire. C'est-à-dire que ne simplifions pas à une racine élue, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de politique élue, il y a une invention au quotidien. Sur la souveraineté, il y aurait beaucoup de choses à dire. Achetez mon livre.
Bertrand Madi, je vous remercie.